En programmation des RIDM cette année, il y a pas moins de 109 films en provenance de 45 pays, dont 48 longs métrages, 18 premiers longs métrages. Alors ça, c'est intéressant. 13 films que j'ai pu trouver en lien avec les arts visuels et des disciplines connexes, là, que voilà toute une célébration du documentaire qui se poursuivra durant 3 semaines. Et pour vous en dire davantage sur ce festival, je joins avec grand plaisir Bruno Dequenne, directeur artistique. Bienvenue, Bruno Dequenne.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Entendez? Oui, oui, je vous entends. Parfait, excellent. On peut commencer. Alors, Bruno Dequenne, quels ajustements avez-vous pu faire en cette période de pandémie? Bien sûr, bien des festivals ont été affectés. Il me semblait que vous êtes très bien ajusté pour cette édition entièrement en ligne.
Bah, comme tous les festivals, je pense que c'est sûr que ça n'a pas été une année facile, mais d'un autre côté, on est quand même très chanceux en cinéma, quelque part, parce qu'on peut quand même présenter des films en ligne, ce qui est moins intéressant pour nous que de le présenter de façon physique, mais c'est quand même une option. Alors que quand je pense aux collègues qui sont plus dans le théâtre ou dans la musique, c'est beaucoup plus difficile.
Oui.
Nous, de notre côté, on a été un peu moins affectés que d'autres, mais juste parce qu'on a été très pragmatique, en fait. On s'est dit tout de suite au printemps que le plan A, ça allait être d'être en ligne, et le plan B, si on pouvait, ce serait d'être en salle, en partie. Et quand le plan B a disparu, on avait encore notre plan A.
Oh, bon, quel soulagement. Mais certains festivals ont pensé à une édition mixte, mais ce ne fut que de courte durée, cet espoir pour bien des festivals d'avoir des éditions mixtes en ligne et en salle.
C'est bien, mais on peut pas, oui. Peut-être à l'avenir, on va probablement tous avoir une composante en ligne, parce que ça peut être pratique de rejoindre le Québec en dehors du centre-ville de Montréal. Mais ceci étant dit, c'est sûr que cette année, on ne pouvait pas vraiment faire de plan à court ou moyen terme.
Alors, Monsieur Bruno Dequenne, je suis ravie de pouvoir vous poser quelques questions sur les rencontres, les RIDM, Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Fidèle à son approche, les RIDM nous ont concocté une programmation représentative du contexte actuel. De quelle façon? Je pense que vous avez pensé à créer des sections et dans quel but?
Ça. Le concept qu'on avait depuis le printemps, c'était de faire fonctionner le festival intégralement par section thématique. Il y avait deux raisons à ça. Une qui était qu'effectivement, on voulait, en arrivant en novembre, prendre un minimum en considération l'époque dans laquelle on vit et pas avoir l'air d'être complètement déconnecté. Donc il y a certaines sections, par exemple, il y en a une qui s'appelle « Repenser l'intimité ». C'est le type de section qu'on a conçue en ayant quand même en tête le fait qu'on a passé une année complète séparés les uns des autres en bonne partie, les liens sociaux et intimes ont été un peu bouleversés par le virus. Donc cette section-là, elle est vraiment conçue avec ça derrière la tête, de la même façon que des sections comme devenir soi-même ou des choses comme ça sont reliées à des problématiques ou à des enjeux identitaires, que ce soit l'identité de genre sexuel ou que ce soit l'identité raciale, l'identité de pays, etc., ou de nationalité, qui sont très présentes actuellement dans le discours public et dans les préoccupations de chacun. Donc on l'avait conçu comme ça, selon ces sections-là, en se disant que c'était des sections qui pouvaient être très évocatrices pour le public. Et d'un autre côté, on avait aussi pris la décision que les films seraient pas accessibles individuellement.
Oui, alors écoutez, ça, vous allez nous expliquer.
C'est relié à ce concept de section.
Vous allez nous expliquer ce nouveau concept dans quelques instants, mais avant qu'on parle de ce nouveau concept, vous avez aussi une section très intéressante qui s'inscrit beaucoup dans l'actualité, l'actualité même brûlante, confronter l'histoire, hein, je croirais.
Mm-hmm.
Alors, ça, pouvez-vous...
Confronter l'histoire, oui, qui est composé de films qui utilisent beaucoup du travail d'archives, entre autres, pour réécrire et comme l'indique le titre, confronter l'histoire telle qu'elle a été enseignée et couchée sur papier.
Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est intéressant. Vous avez des films qui m'apparaissent percutants. Alors, que poursuivons sur les sections. Donc, les festivaliers ne pourront demander un film en particulier que pendant une semaine, ou ils doivent demander le bloc au complet, ou comment ça fonctionne?
Il y a deux seuls moyens d'accéder au festival, sur la plateforme du festival.
Oui.
Soit de prendre un passeport qui donne accès à tout le festival. Donc, nous, le festival se déroule sur 3 semaines.
Oui.
Mais les sections individuelles sont répartis sur ces 3 semaines-là et les sections ne sont disponibles que 7 jours. Donc par exemple, demain on commence avec les 3 premières sections, mercredi prochain à minuit, elles disparaissent et elles font la place aux sections 4, 5, 6. Donc les films et leurs sections sont disponibles 7 jours. Les deux moyens, c'est le passeport qui donne accès à tout et les abonnements à des sections. Donc si quelqu'un, par exemple, veut regarder L'Histoire interdite, qui est un film dans la section Confronter l'Histoire, il faut s'abonner à la section Confronter l'Histoire. Sachant que les coûts d'abonnement sont très minimes. On a essayé de faire quelque chose qui était vraiment accessible. Donc au lieu de dire payer 10 dollars par exemple pour regarder un film chez vous, on vous dit payer 15 dollars pour avoir 12 films.
Ah ben oui, c'est intéressant, franchement.
C'est ça l'idée en fait.
Oui, ah ben c'est une bonne idée. Présenté comme ça, merci. C'était justement une question que je me posais. Et ben là, ça vient de s'éclaircir et ça permet vraiment de faire des découvertes. Hein. Vous proposez à ce moment-là au festivalier de faire bien des découvertes de cette façon.
C'est exactement ça l'objectif en fait. C'était de, à travers le concept de section, c'est de promouvoir les dialogues entre les films. Donc effectivement, quelqu'un qui, par exemple, on a certains cinéastes qui sont plus connus que d'autres parfois. Donc dans la section Trouver ses communautés, on a un film de Frédéric Wiseman, qui est un cinéaste américain très célèbre. Si quelqu'un s'abonne pour voir le film de Frédéric Wiseman, de toute façon, la personne va avoir accès à 10 autres films. Donc peut-être que cette personne-là va regarder un film comme Les Libres de Nicolas Lévesque ou Dark City Beneath the Beat, par exemple, qui font partie de cette même section et auxquels ils vont avoir accès de toute façon.
Tout à fait, tout à fait. C'est très intéressant. Alors, voilà. Maintenant, on pourrait peut-être parler un petit peu des films en arts visuels. Vous savez certainement que nous entretenons dans le cadre d'une émission dédiée aux arts visuels. Alors, je vais vous poser quelques petites questions sur ce volet. Étant directeur artistique, pourriez-vous nous parler de quelques films en arts visuels et dans des disciplines connexes? On va se limiter à la première semaine parce que moi, j'en ai quand même trouvé une bonne douzaine de films. On va se limiter à la première semaine. Alors, quels films en art visuel et disciplines connexes vous nous recommandez?
Quand vous parlez d'art visuel, vous parlez du cinéma, incluant le cinéma?
Photographie, art... C'est ça. Je peux vous en nommer.
On avait parlé de la section Confronter l'Histoire.
Oui.
Il y a un film qui s'appelle Histoire de regard.
Oui.
Alors, qui porte pas sur la photographie artistique, mais qui porte sur la photographie, le photoreportage.
Oui, le photoreportage.
C'est le portrait d'un reporter photo français de la fin des années 60.
Oui.
Et qui a été assassiné, en fait, au Cambodge, enfin plutôt au Vietnam. Dans les années 70, au début des années 70.
Gilles Caron, c'est ça, Gilles Caron.
Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est un film qui décortique en fait le travail de journaliste photographe. C'est vraiment ça le sujet du film. La cinéaste a retrouvé les archives de pellicules de cet homme-là et passe à travers tous les rouleaux de pellicules pour essayer de comprendre comment il cadre. Comment il réussit à prendre telle photo plutôt qu'une autre? Pourquoi il a conservé une photo sur 28 pour le journal et pas la 27e photo? Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Et à travers les différentes photos qu'il a prises, on peut aussi se réimaginer le trajet qu'il faisait en fait pour prendre ces photos-là. Donc un exemple typique, une de ces photos très célèbres, c'est une photo qu'il a prise pendant les révoltes de mai 68 en France.
Oui.
Il avait pris une photo qui est devenue très connue de Daniel Cohn-Bendit, qui était le leader étudiant, face à un policier. Et c'est une à travers le rouleau de pellicule, en fait, on comprend qu'il a tenté de prendre au moins, mettons, une dizaine de clichés qui fonctionnaient pas. De Daniel Cohn-Bendit avec le policier, mais qu'il était en train en même temps d'observer le mouvement de la foule pour réussir à se positionner, cadrer correctement, réussir à comprendre que le policier allait s'approcher de Daniel Cohn-Bendit alors qu'ils étaient éloignés au départ. Donc on passe vraiment à travers toute la psychologie et le fonctionnement d'un reporter photo, en fait. C'est vraiment très intéressant.
Ah oui, tout à fait. Il s'agit de Gilles Caron, hein, ce photo-reporter. Oui, d'accord, qui est malheureusement disparu. Alors, c'est un film que vous recommandez absolument, je croirais, à vous entendre, et cette description est d'intérêt. Vous avez aussi, je pense que je peux vous en nommer peut-être d'autres que j'ai pu identifier. Vous avez le petit... On va parler d'un court-métrage, hein, ce qui n'est pas... c'est parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un volet aussi court-métrage au RIDM. Il y a le court-métrage lui par contre ça ne sera pas la semaine prochaine, ça sera le 22 novembre, mais parlons-en tout de même, Bâtiment X qui s'intéresse à l'urbanisme.
Ah ok, oui, Bâtiment X, c'est oui. un oui. court-métrage, en fait, un premier court-métrage d'un jeune qui fait partie de la soirée de la relève.
Oui.
Donc ça c'est un cas particulier, parce que la soirée de la relève, c'est 6 courts-métrages
oui.
qui sont en compétition pour un prix de stage à Radio-Canada.
Oui.
Donc c'est un cas particulier, en fait, ils font partie de la programmation, mais légèrement différent, et dans ce cas-là, c'est vraiment plus essentiellement sur les enjeux de gentrification mm-hmm. d'espace urbain, en fait.
Et de l'espace idéal voilà. qu'on pourrait avoir en tête ou auquel on pourrait rêver, bien sûr.
Oui, voilà, exactement. Et il utilise de l'animation aussi dans son film pour visualiser un peu ce que pourrait être un espace idéal, finalement, pour de différentes communautés dans un quartier qui subit actuellement la gentrification à Montréal.
Alors, vous avez, je pense aussi, l'Indien Malcolm Odd, hein, qui fait un petit peu une plongée dans le milieu artistique amérindien ou autochtone.
Oui, autochtone. L'histoire, l'Indien Malcolm Odd, en fait, c'est l'adaptation d'un livre à l'origine qui est un pamphlet sur la représentation, la fausse représentation persistante des autochtones par à la fois la société, mais la culture de façon plus générale, donc le cinéma, la photographie, etc. Et dans ce film-là, ce qui est intéressant, c'est que la cinéaste Michelle Latimer, elle va non seulement utiliser des archives pour décortiquer un peu la façon dont les médias perçoivent les autochtones encore de nos jours, mais elle va aussi aller à la rencontre de différents artistes autochtones qui ont des pratiques très très actuelles et stimulantes. Donc c'est à la fois tourner vers le passé pour essayer de le déconstruire et tourner vers l'avenir en nous montrant en fait tous ces artistes, notamment il y en a un. Bon là, j'ai plus le nom en tête, mais ce peintre qui fait des peintures très très réalistes et ultra satiriques et critiques du colonialisme.
Ah oui, Kent Mokman.
Des fresques énormes.
Est-ce que vous parlez de Kent Mokman?
Au peintre français David, mais en version.
Est-ce que vous parlez de Kent Mokman? Est-ce que vous parlez de Kent Mokman?
Oui, exactement.
Oh,
voilà.
Oui, exactement. Oui.
En fait. Alors, donc lui est, par exemple est dans le documentaire, ainsi que Caroline Monet ou d'autres oui. personnes qui discutent des pratiques contemporaines d'artistes autochtones.
Alors je pense que c'est un film à voir absolument. Alors écoutez, il y a un film de peut-être deux autres films en lien indirectement avec les arts visuels, mais qui m'apparaissent absolument vraiment percutants. Alors vous avez Ouverture, qui est un regroupement, c'est un regroupement d'artistes qui ont une approche multidisciplinaire.
Oui, c'est ça. Ouverture, en fait, c'est un film qui a été tourné, conçu par un collectif. Donc, il y a deux cinéastes qui ont travaillé avec un collectif haïtien qui s'appelle The Dead and Living Ensemble, qui fait principalement quand même théâtre, musique et performance. Et c'est un film qui a de multiples portes d'entrée parce que c'est le point de départ du film, c'est ce collectif qui tente d'adapter une pièce d'Édouard Glissant oui. sur Toussaint Louverture. Et à partir de ça, on a à la fois des entretiens avec les membres du collectif sur ce que représente la figure de Toussaint Louverture pour un haïtien de nos jours, pour un jeune haïtien. Il y a également du travail de recherche sur les écrits et surtout les dernières parties du journal intime de Toussaint Louverture quand il est qui est mort
en prison,
fermé dans une geôle dans le Jura en France.
Oui.
À l'époque. Donc il y a des moments comme ça, il y a des moments de pure performance. C'est entre le documentaire, la performance, le théâtre, la recherche historique. Et l'essai politique, on va dire.
Eh, mon Dieu. Alors, écoutez, j'ai très, très hâte de voir ce film, ainsi qu'un autre film qui m'apparaît, comme je mentionnais, percutant, hein, Dark City Beneath the Beat. Hein. Ça, c'est vraiment dans le milieu du hip-hop, du rap et de la murale, du graffiti.
Dark City Beneath the Beat, c'est vraiment le milieu des clubs, en
oui.
fait. C'est un film qui a été... En fait, c'est un premier long-métrage qui a été tourné par quelqu'un qui s'appelle Titi the Artist. Et Titi the Artist est une jeune qui fait de la performance dans la scène des clubs de Baltimore. Donc tout ça, ça se déroule à Baltimore. Et elle a décidé de faire un film pour mettre de l'avant la créativité de cette scène-là, qui est principalement composée de, d'Afro-Américains. Et donc ça, la musique, la poésie, la danse. Ce qui est très intéressant dans ce film-là, c'est surtout que c'est un film qui est tourné par quelqu'un de l'intérieur, en fait. Donc c'est pas un regard extérieur sur la scène des clubs de Baltimore, c'est vraiment un regard de quelqu'un qui fait partie de cette scène-là pour pouvoir nous la montrer, puis exemplifier tout ce qu'il y a de plus intéressant là-dedans. Et elle le tourne aussi avec, derrière la tête, une culture du vidéoclip. Donc il y a énormément de scènes qui sont des scènes de chorégraphie, de performance dans ce film, vous verrez.
Alors écoutez, ce n'est que quelques suggestions du volet art visuel, discipline connexe qu'on pourra voir dans le cadre des RIDM. Peut-être en terminant, M. Bruno Decken, un autre film en dehors des arts, de cette thématique des arts visuels, incontournable à votre avis, un film que vous nous souhaitez nous partager?
Oh là, un seul film, c'est pas forcément évident. Je dirais pas un incontournable parce que je peux pas vous mettre de l'avant un film plutôt qu'un autre. Mais par contre, une véritable curiosité en créativité documentaire, ça peut être un film comme My Mexican Pretzel, mon bretzel mexicain, qu'on présente à partir du 19 novembre dans la section Devenir soi-même. C'est un film qui est entièrement composé d'images d'archives d'une femme bourgeoise suisse qu'on suit de sa jeunesse à la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à sa mort au début des années 70. Et on a ces archives, et par-dessus ces archives, on a des textes qui sont tirés de son journal intime. Donc on voit et il y a presque pas de son. Donc on est sans arrêt en train d'essayer de faire le lien entre les images et le texte qu'on est en train de lire. Et ce texte utilise des citations d'un essai écrit par un gourou au début du XXe siècle qui a été déclaré faussaire une centaine d'années plus tard.
Oui.
Donc en fait, les sources d'inspiration de cette femme-là sont en fait des sortes de maximes qui s'avèrent être erronées ou en tout cas plagiées. Les images d'archives sont pas celles qu'on croit, on le réalise à la fin. Et le journal intime est peut-être inventé.
Alors, c'est tout un exercice qui tient du jeu que vous proposez au public.
C'est à la fois un film qui est vraiment passionnant parce qu'en fait, on plonge vraiment dans l'état d'esprit d'une femme des années 50 à 70. Avec tout ce que ça représentait de conflits intérieurs, de difficultés à prendre sa place dans la société, etc., etc. Donc c'est un jeu, mais qui est pas simplement ludique en fait. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment de rentrer dans une forme documentaire qui est hyper créative en fait, parce qu'on a souvent cette image du documentaire comme étant quelque chose qui est relié à une simple représentation du réel, ou en tout cas une tentative de représentation du réel, alors que là on n'est pas du tout dans le même mode en fait. On est sur un mode qui utilise, les archives sont vraies, ceci étant dit, ce sont de véritables archives, mais pas de cette femme-là.
Alors, Bruno Decken, que voilà une suggestion intéressante. Peut-être me nous redonner le titre de ce film que vous...
Oui, on peut le retenir.
C'est incontournable.
Le mexicain.
Alors, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Dans le cadre du magazine Radio In Situ, je m'entretenais donc avec Bruno Decken, directeur artistique du festival RIDM, qui aura une durée de 3 semaines, et ça se poursuivra jusqu'à quelle date?
Jusqu'au 2 décembre.
2 décembre. Alors, je vous souhaite un excellent festival en ligne. Merci.
Merci.
Et là, écoutez, cher auditoire, on va poursuivre en musique avec le Titi Artist en vedette dans le film présenté dans le cadre des RIDM, Dark City Beneath the Beat, qui se déroule dans un lieu entouré de graffitis de M. Slumsy, un film qu'on peut visionner du 12 au 18 novembre.
Yo.
Hold up.
What?
What? What?
Huh? Yo, yo, yo. She rockin'. Rock, rock. She rockin'. Rock, rock. She rockin'. Rock, rock.
she rockin'. I'm about to rip the chat like I'm running in a race. Taking gold medals, winning first place, all in my face. I might get rowdy, but that's what you get when you mess with me, shout it. Hater block is on, I'm too cool. Break it down, take it down, chop and screw. Uptown style, dirty south now. Give me two cups, turn the club out. Till the place up, till the bass up. Okay, that's great.